France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une profession mal connue, aux contours flous, peu ou pas réglementée. Les sexologues sont d'ailleurs divisés sur la question de leur statut. Certains aspirent à un encadrement légal et déontologique plus précis, tandis que d'autres préfèrent exercer, et notamment facturer, dans un cadre plus souple. On peut de fait devenir sexologue de plusieurs façons. Des médecins et des professions paramédicales, comme les psychologues, les infirmiers, infirmières et les sages-femmes, peuvent passer un diplôme interuniversitaire de 3 ans en sexologie et médecine sexuelle. Mais il existe aussi des formations privées, plus ou moins sérieuses et relativement onéreuses, pour devenir ce qu'on appellera alors sexothérapeute, psychosexologue ou sexologue clinicien. Dans les 2 cas, je suis sûre qu'il en sort des professionnels sérieux, mais l'absence de contrôle, de vérification des antécédents par exemple, peut tout de même inquiéter et ouvrir la voie à un certain charlatanisme, voire à des erreurs de casting. Du côté du public, l'ignorance du métier est proportionnelle, comme le raconte aujourd'hui Virginie Claranque. Elle est bardée de diplômes, ce qu'on fait de plus sérieux. Elle a passé le fameux DIU à la faculté de médecine de Nantes, plus de nombreuses formations universitaires en psychosexologie positive et aux thérapies comportementales et cognitives des couples et des familles. On l'écoute tout de suite détailler les aléas de sa profession à Carole Bailly.
Je m'appelle Virginie, j'ai 55 ans, je suis sexologue. Et je travaille à Morlaix, à Paris, et puis j'interviens à la faculté de médecine de Nantes. J'ai commencé à travailler dans des services de soins lourds et techniques, avec des pronostics qui étaient engagés pour les patients, notamment en cancéro ou en hémato, et où ces patients ne se sentaient pas légitimes d'aborder la question de l'intimité sexuelle, parce qu'ils étaient dans une lutte déjà pour la vie. Et ces questions d'intimité n'étaient pas abordées par les médecins et par les soignants en général. Et naturellement, j'ai commencé à recevoir des demandes, des témoignages, des besoins. La première fois qu'un patient m'en a parlé, je pense que c'est un patient qui a dû me dire quelque chose comme « Vous rendez compte, Virginie, je suis malade à cause d'une infection sexuellement transmissible » et il parlait du VIH. Je me bats pour survivre. Est-ce que c'est légitime d'avoir envie encore de prendre du plaisir sexuel? Bien sûr, c'est légitime. On doit pouvoir l'organiser pour vous. Et voilà comment ça a commencé. En fait, avec les médecins, on est toujours en transmission, on fait des réunions. Et donc, moi, c'était à ce moment-là que je pouvais dire « tel patient aimerait parler de son intimité, aimerait vivre une intimité. Est-ce que on va pouvoir organiser pour lui une permission? Est-ce que son état le permet? Est-ce que on lui propose des moments d'intimité où qu'il ait des visites ou pas, ou qu'elle ait des visites ou pas, on ne rentre pas dans sa chambre? Parce que la chambre d'un patient à l'hôpital, elle est absolument pas privée. Pensons bien à frapper, à attendre d'être invité dans la chambre avant d'ouvrir la porte, ce genre de choses. Donc oui, je me souviens d'un couple, vraiment c'était très touchant parce que c'était un couple, c'est le monsieur qui était malade, je sais pas, 35-40 ans, qui était père de 2 jeunes enfants en bas âge et sa femme venait régulièrement et ce monsieur n'était pas en état compatible avec une sortie, une permission, il était vraiment trop faible. Et je me souviens qu'on avait donc organisé pour eux un moment d'intimité. J'ai su ensuite qu'ils avaient pu vivre un moment nus l'un contre l'autre dans le lit. C'est tout ce qui s'était passé et c'était merveilleux que ce soit passé parce que ce pot à pot, il ne l'avait plus. Cette femme n'avait plus accès au corps de son bien-aimé, à part la main, à part le bras souvent perfusé, le corps malade. Et là, c'était un corps qui ressemblait à un corps qu'elle avait connu parce qu'on avait pris soin aussi de ne pas mettre de perfusion pendant ce temps-là. Il n'y avait pas de tuyaux, de traitement, de signes visibles, etc. C'était vraiment une parenthèse pour eux où ils ont pu se retrouver. Et c'était tellement, tellement merveilleux de retrouver ensuite ce patient transformé par cette expérience d'intimité dont il avait besoin. Ce sont des gens qui se sont mariés aussi. Et puis il est décédé ensuite. Mais je pense que ces moments-là, ce sont des moments de vie qui les ont aidés, je l'espère, qui leur ont permis de vivre tout ce qu'ils avaient à vivre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Je suis encore émue, hein. C'était dans les années 90, hein. Et c'était complètement non officiel, hein. Il n'y avait rien d'officiel, c'était simplement une cohésion d'équipe, des discussions avec le patient, la patiente, ce couple, pour leur permettre de vivre tout ce qu'ils ont à vivre. Finalement, cette question de la sexualité qui est abîmée, qui est empêchée, c'est arrivé là, dans ma vie. Ça ne m'a jamais quittée. Donc je commence à lire des ouvrages sur la sexologie. Après, je suis partie de l'hôpital, je suis devenue infirmière libérale. Je ne connaissais absolument pas le métier de sexologue à l'époque. Je n'imaginais pas du tout pouvoir me projeter dans ce genre de profession, et en plus j'imaginais qu'il fallait être médecin. Ça a changé quand cette amie sage-femme s'est spécialisée et est devenue sexologue. Et là, quelques temps après, je me suis dit, ben alors je peux le faire si elle l'a fait. Et je l'ai fait. Et à 49 ans, je suis retournée en fac de médecine pour passer ce fichu diplôme interuniversitaire. Donc, à un moment donné dans ma vie, je décide de venir vivre en Bretagne, et c'est à ce moment-là que j'envisage de ne faire plus que de la sexo et de la thérapie de couple. Je sais qu'il n'y a pas de sexologue dans ma région. Dans le Finistère, dans ma région à Morlaix, il n'y en a pas. Pour faire passer l'information selon laquelle y avait une sexologue maintenant qui pouvait les recevoir, le meilleur moyen, c'était que je mette une plaque sur l'entrée de mon domicile, même si ce n'était pas l'endroit où je consultais. Il se trouve que mon conjoint a un travail dans le cinéma, à l'époque. Et j'ai entendu des gens dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi une sexologue ? Oh non, mais t'inquiète pas, ça doit être pour un tournage. » Ou alors, très souvent, « Mais on n'en a pas besoin, n'importe quoi. Ici, ça ne marchera pas, c'est sûr. » Ce qui est chouette, c'est que je ne les ai pas vraiment entendus, j'en ai pas vraiment tenu compte. Et finalement, ça s'est très bien passé. Les gens sont venus, continuent de venir. Je me souviens de mes premières consultations, où c'était toujours avec cette peur de ne pas pouvoir bien les accompagner, alors que finalement, je le faisais depuis longtemps. Il y avait aussi cette question, en tant que femme, de peut-être être dans un rôle où on va parler de sexualité librement, dans un cadre qu'en tant que femme je pose et qui peut poser problème et qui peut créer des formes d'agressivité ou de violence. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'installer dans un cabinet pluridisciplinaire où j'avais des collègues. L'agressivité en consultation, elle vient des couples qu'on accompagne. Il m'est arrivé d'avoir des patients et des patientes qui sont extrêmement agressifs à l'encontre de leur conjoint ou de leur partenaire, ou à mon encontre. Je me suis entendue dire par un patient très mécontent parce qu'il n'était pas là dans un but de thérapie, il était plutôt là pour trouver quelqu'un qui serait d'accord avec lui, contre sa partenaire, sur la fréquence sexuelle dont il estimait avoir droit dans son couple. Donc je suis là pour que la sexologue dise que oui, j'ai le droit à un rapport par jour et je l'aurai. Évidemment. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il m'a dit, mais enfin, au prix où je vous paye, madame, la moindre des choses, ce serait quand même de me soutenir. Il s'est levé et il a claqué la porte, mais avant, il a eu un geste de menace envers moi. Bon, moi, j'ai fait comme si j'avais pas peur. Mais j'ai eu peur. Et... Alors, en tant que sexologue, on a des demandes d'injonction de soins faites par ces personnes qui ont été condamnées par la justice suite à des faits d'agression sexuelle, notamment des pédocriminels, des personnes qui ont été condamnées pour exhibition sexuelle. Mais en tout cas, ces personnes, quand elles se présentent pour être suivies régulièrement, en général une fois par mois, pendant parfois une année, deux années, elles nous disent ce qu'elles veulent parce qu'on ne sait pas pourquoi elles ont été condamnées. Et ça, à mon sens, c'est problématique. Et notamment, ça m'est arrivé, par exemple, de recevoir un patient pour une injonction de soins. Et avant même que je le voie, mes collègues ostéo et kiné m'avaient dit « Virginie, je ne sais pas si c'est ton patient, mais on est là. » Parce que là, il a fait peur à tout le monde en salle d'attente. Moi, je me dis, bon, faut quand même pas exagérer, je l'avais pas vu encore le patient. C'est vrai que quand je suis allée le chercher, j'ai compris. C'est quelqu'un qui faisait près de 2 mètres, qui faisait plus de 150 kilos, je pense. Et il était prognate aussi, ce qui rajoutait aussi un faciès assez particulier, en plus de sa stature vraiment impressionnante. Mais je l'ai pris en soin parce que je n'étais justement pas seule et je faisais très attention à le recevoir pendant que mes collègues étaient là, pas sur les pauses déjeuner, etc. Ça m'est arrivé, d'ailleurs j'y pense, que finalement mes collègues ne soient pas là et j'ai fait semblant d'entrouvrir la porte « bon, à tout à l'heure » pour ne pas montrer à ce patient que j'étais seule dans l'enceinte du cabinet. De ce qu'il m'avait dit, il avait été condamné pour exhibition à la fenêtre de sa chambre face à sa voisine à plusieurs reprises et elle avait fini par porter plainte. Et il avait une injonction de soins. Mais au cours de ma prise en charge, j'ai appris qu'il avait fait de la prison pour d'autres choses mais dont je n'avais pas connaissance. Et en fait, le problème de ce patient, évidemment, ça a été le transfert. Puisqu'à un moment donné, il m'a parlé de ses fantasmes me concernant. Il était allé chercher des photos de moi sur Internet. Il avait des comportements sexuels problématiques face à ces photos et il avait pu m'en parler. Donc on avait travaillé là-dessus, etc. Et donc, j'ai mis un terme à cet accompagnement dans le cabinet pluridisciplinaire le jour où, pendant une séance, il m'a dit qu'il avait une envie irrépressible de se masturber en séance, et il a clairement mis les mains dans son pantalon pour le faire devant moi. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, vraiment pas possible, et qu'on ne pouvait pas travailler dans ces conditions et que ça mettrait un terme à l'accompagnement. Je lui ai demandé de respirer, de prendre le temps qu'il lui fallait, ce qu'il a fait, et il a arrêté. Il est parti, il a interrompu la séance, parce qu'on ne pouvait pas continuer de travailler dans ces conditions, mais il a respecté le cadre. Quelques mois après mon installation seule dans le cabinet de Morlaix, en fait, il a commencé à me harceler par mail, par téléphone. Il me disait qu'il était amoureux, qu'il voulait me voir, qu'il me désirait. Donc je n'ai pas donné suite jusqu'au jour où ce patient qui ne conduisait pas et qui habitait très loin de Morlaix s'est retrouvé face à moi dans la rue et venait clairement vers moi. Et compte tenu de tout ce harcèlement et de tout ce qu'il avait pu dire par téléphone ou par mail, je ne me suis pas du tout sentie en sécurité et je me suis réfugiée dans ma voiture. Il a continué de s'avancer vers moi. Il était tout contre ma vitre. J'ai eu très peur. Je suis partie en voiture. Heureusement, je ne l'ai pas bousculé. Et ensuite, je lui ai signifié que j'allais porter plainte et que je ne souhaitais pas du tout qu'il revienne au cabinet. Cabinet duquel je ne lui avais pas donné l'adresse. En fait, cette agression qui s'est bien finie, déjà, elle m'a permis d'en parler avec mes collègues femmes sexologues. Et on s'est rendu compte que nous toutes, nous étions soumises à des intimidations, des propos hors cadre, et qu'on avait toutes développé des stratégies pour ne pas être agressées. Donc, outre la plainte, bien sûr, j'ai pu observer que quand il fait nuit, le soir, maintenant avec les économies d'énergie, les villes n'éclairent plus ma rue, eh bien, je fais le tour pour sortir par le portail sur lequel j'ai fait placer des lumières qui s'allument toutes seules sur mon passage pour ne pas être dans le noir, pour aller jusqu'à ma voiture. Je n'accueille plus aucun premier rendez-vous, homme, femme, couple, sans avoir ma bombe lacrymogène dans la poche. On ne sait pas très bien ce que c'est un ou une sexologue. Comme on ne sait pas très bien ce que c'est et qu'on parle de sexualité, il y a une espèce de confusion avec les services sexuels. Chaque semaine, j'ai à peu près un masturbateur compulsif au téléphone. Ça s'est bien réduit, parce que d'abord, avec l'expérience, on les entend. Mais parfois, c'est pas évident par téléphone de comprendre si cette personne est vraiment mal à l'aise parce qu'elle a de la souffrance, elle a du mal à en parler, elle a du mal à prendre rendez-vous, ou si cette personne, elle est clairement en train de se masturber au téléphone. Dans ces cas-là, je dis, écoutez, de toute façon, là, on peut pas rentrer dans les détails. Donc, il faut prendre rendez-vous via le site et le rendez-vous est confirmé quand vous réglez en amont. Sinon, pas de rendez-vous. Ça règle le problème. Et les dick pics, il y en a régulièrement. C'est vraiment une agression. Moi, je suis désolée, mais le matin, au petit-déj, recevoir une photo non sollicitée de l'appareil génital d'un mec que je connais pas en érection ou une vidéo, bien sûr que c'est violent. Et donc, ben, rappel à la loi, 700 euros d'amende, plainte, etc. Les agressions, en général, majoritairement, ce sont des hommes. D'ailleurs, les femmes, elles n'envoient pas une photo de leur sexe à un homme pour le séduire. Hein. Donc, je suis contactée par téléphone par un homme qui s'exprime très très bien, qui m'explique être trader, vivre à l'étranger depuis de nombreuses années, suivre une thérapie sexuelle au Québec et nouvellement arrivé à Morlaix, souhaite poursuivre sa thérapie sexuelle. Il voit que j'ai été formée par des Québécois notamment et donc ça le met en confiance. Il me dit qu'il a mon numéro par une amie de sa femme qui fait du sport dans un endroit que je fréquente aussi, donc je suis complètement en confiance. Jusqu'à ce qu'il m'explique qu'il a besoin, dans cette thérapie sexuelle, de se masturber devant moi, comme il le faisait, me dit-il, avec sa thérapeute québécoise. Et il me dit, écoutez Virginie, une proposition comme je vais vous faire, vous n'en aurez qu'une dans votre vie, parce que je vais venir vous voir une fois par mois et je vous propose 15 000 euros pour cette consultation. Ne me répondez pas immédiatement, je vous rappelle dans une semaine, je vous laisse le temps d'y réfléchir, je raccroche et j'en parle à une de mes collègues. 3 jours après, cette collègue m'appelle et me dit « Virginie, je pense que j'ai eu le même patient que toi au téléphone qui m'a proposé la même chose, mais il m'a proposé 20 000 euros ». Il m'a rappelé, une semaine après, comme il l'avait prévu, pour me demander si j'y avais réfléchi, et je lui ai dit que oui, et que j'attendais qu'il vienne avec la moitié de la somme pour prendre rendez-vous en petite coupure de 50 euros. Mais par contre, que mes tarifs avaient augmenté, et que je lui demandais donc 30 000 euros, puisque j'étais assez vexée qu'il ait proposé plus à ma collègue. Bon, il a raccroché, j'en ai plus jamais entendu parler, et c'était assez amusant, mais bien évidemment, que régulièrement... Je dis « nous » parce que j'en parle avec mes collègues. Nous sommes invités à participer à la sexualité de certaines personnes, de nos patients, ou alors des questions intrusives sur notre sexualité à nous, notre intimité. Ce qui se passe quand on est soignant en général, sexologue, c'est que d'un seul coup, les gens vont vous raconter leurs problèmes de sexualité ou vont vous raconter leur sexualité ou... supposer que j'ai une vie intime et sexuelle totalement débridée. Soit l'interlocuteur se sent tout permis, tout est possible, ou nous assimile à vraiment des sortes de déesses du sexe absolu. On peut toucher notre corps, les gens sont d'un seul coup beaucoup plus tactiles, donc là, on recadrage immédiat. Ou alors, le déballage, voilà, le grand déballage de « Ah bah oui, bah alors j'ai des problèmes, tiens, tu pourrais peut-être me dire ce que je dois faire. » Et moi, je suis là pour danser, en fait. Danser, chanter, profiter d'un concert, d'une soirée, d'une... Mais là, moi, je recadre, je dis « Bah écoute, le mieux, c'est que tu prennes rendez-vous ou que vous preniez rendez-vous. » Et puis, on en parle dans un cadre de consultation. Alors, comment ça se passe une première séance quand on arrive ? On arrive au cabinet, en général, même si les gens sont un tout petit peu en retard, je les laisse un petit peu tranquilles en salle d'attente, le temps d'arriver, de se poser. Et ensuite, je vais les chercher. Et puis, il y a Bubblegum, la chienne, qui est une caniche noire, ce qu'il y a de plus banal. Elle a un rôle très important parce qu'elle arrive avant moi en salle d'attente et ça détend en général les personnes qui attendent et qui ne s'attendent pas du tout à être accueillies par un chien. Et elle m'avertit, ça arrive rarement, mais elle peut aboyer. Et ils s'installent dans les fauteuils qui sont là, je m'installe en face et pareil, j'observe un peu comment ça se passe, la répartition, est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils se touchent. Bon, quand ils sont seuls aussi, j'observe leur corps, est-ce qu'ils sont tendus ou pas. Et je vais rappeler en général le cadre, le non-jugement, le respect, Pendant mes consultations, je peux utiliser des accessoires. J'ai par exemple des clitoris 3D. Alors je ne l'ai plus, je la regrette. Oh, si je pouvais en retrouver une, ce serait génial. J'avais une banane qui relaxe les mains. Et ça me servait de pénis factice pour montrer des choses en consultation. Et c'était assez marrant. Je me sers aussi d'un damier avec un jeu de dames et un jeu d'échecs de part et d'autre. Ça peut être une image aussi. C'est juste pour comprendre que souvent dans un couple ou dans la sexualité, l'un des deux joue aux dames sur un damier et suppose que la personne en face joue aussi aux dames. Sauf que de l'autre côté, c'est un jeu d'échecs, que la personne qui joue aux échecs est persuadée que son partenaire de vie a les mêmes règles du jeu. Chacun pense jouer au même jeu, et on se rend compte que pas du tout. Quand je reçois un couple et que plus personne ne s'entend, que c'est la cacophonie, ou que vraiment là, on n'est pas du tout dans un cadre respectueux, j'appuie sur ma petite sonnette. Voilà. Et ça, en général, ça surprend et ça coupe court à ce qui est en train de se dire. Là, c'est vraiment stop, quoi. Et dans la maison, en fait, mes patients ne peuvent pas se croiser, ne peuvent pas se voir. Il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties pour que la confidentialité soit de mise. De toute façon, en tant que soignant, quelle que soit notre spécialité, on est soumis au secret médical. Je le rappelle parce qu'on est sur un petit bassin de vie en Bretagne et qu'on peut se croiser. Ça, c'est quelque chose de très particulier dans ma pratique bretonne. C'est que si je suis en train de me baigner, je peux tout à fait entendre d'un seul coup « Ouh, Virginie, bonjour !» Et ça peut être un ou une patiente qui est tout à fait à l'aise. Et c'est OK, hein, moi je réponds volontiers. Mais je leur précise aussi que je n'irai pas de moi-même les saluer dans la rue ou dans un concert ou dans un resto ou dans un café pour pas les mettre mal à l'aise. Ça m'est arrivé dans le cabinet pluridisciplinaire, c'était assez cocasse et pas confortable du tout. C'est que je reçois un couple qui arrive, mais je vois tout de suite qu'il y a un énorme problème. Et je leur dis, mais ça n'a pas l'air d'aller du tout, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, l'homme me dit, on vient de croiser l'amant de ma femme qui sort de votre consultation. Ils étaient super mal. Je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur quelle posture on a dans l'espace public quand, de nouveau, vous êtes ensemble, tous les deux, là, vous allez bien, vous allez à une soirée et vous tombez sur cette personne. Ce n'était pas prévu. Et grâce à ça, d'ailleurs, je l'aborde systématiquement dans mes consultations liées à une infidélité. Les personnes que j'ai accompagnées au départ sont toujours les mêmes profils d'aujourd'hui, en tout cas en Bretagne. Il s'agit d'hommes seuls, de femmes seules, d'hommes et de femmes en couple, de couples homosexuels, de couples lesbiens, de jeunes adolescents. J'ai eu aussi un petit garçon qui a été amené par une patiente que je suivais et qui s'est rendu compte que son petit garçon avait développé une addiction au porno. Il avait 9 ans quand il est venu. Ça faisait déjà un moment qu'il était dans cette incapacité à ne pas regarder du porno, en fait. Il était tombé dessus par hasard avec un camarade de classe sur sa tablette. Il comprenait bien que ça lui faisait pas de bien, mais il n'arrivait pas à arrêter ça. Alors avec cet enfant, j'ai organisé mes consultations différemment. J'ai utilisé ma chienne qui m'accompagne dans ma pratique parce que c'était un vecteur de détente pour lui. Et puis, on a réglé le problème. Les feutres, les dessins, le fait d'être par terre, d'être tranquille, de pouvoir grignoter un petit truc. Je l'ai vu 3 fois, ça a suffi hein, pour qu'il arrête ça. Et on change aussi parfois la disposition pour certains patients. Ça peut m'arriver de proposer du walk and talk, c'est-à-dire qu'on part en extérieur se balader pendant 3 quarts d'heure. Ça peut être qu'on peut se mettre pieds nus, enlever ses chaussures, se mettre en tailleur, se mettre sur le tapis. On fait ce qu'on veut, on peut se lever, on peut marcher, on peut faire des pauses. En fait, c'est du sur-mesure, les consultations. Par contre, on ne peut pas être nu. Ça, c'est une demande, parfois. Est-ce qu'on doit se déshabiller? Les gens s'inquiètent, ils ne savent pas exactement hein, ce qui se passe dans des consultations de sexo. on va jamais passer à l'acte soi-même, ni avec la personne qui nous accompagne, ni avec le thérapeute. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles vont pouvoir, par exemple, filmer leurs ébats et me le montrer. Ça, c'est pas la peine non plus. En fait, ici, c'est vraiment le service après-vente du couple, de la vie relationnelle, de la vie intime. Je me souviens d'une femme, notamment, qui vient me voir parce qu'elle est veuve depuis 10-15 ans. Et elle a écouté des émissions de radio qui parlent du plaisir féminin, qui parlent du clitoris. Et elle découvre qu'elle aussi, à 85 ans, elle a probablement la possibilité d'apprendre à prendre du plaisir avec son sexe. Et elle m'explique qu'elle n'en a jamais pris et qu'elle ne veut pas mourir idiote et qu'elle vient pour apprendre. Et c'est ce que nous avons fait. Donc on a regardé des schémas de son anatomie, on a dessiné son anatomie, elle a regardé son sexe dans un miroir, elle a caressé son sexe, au départ sans aucune sensation. Et puis les sensations sont arrivées, elle a réveillé la Belle au bois dormant, hein, qui dormait depuis 100 ans, et c'était génial comme projet. Et cette femme, entre le début et la fin de la thérapie, quand elle est devenue autonome sexuellement, qu'elle a pris du plaisir seule, elle avait rajeuni de 10-15 ans. Vraiment, c'était plus la même femme. Elle rayonnait. La sexualité épanouie, c'est quand même le meilleur élixir anti-âge. On se met des crèmes anti-tout, anti-rides, anti-je sais pas quoi. Il y a quand même un moyen d'être beaucoup plus jeune, hein. C'est de faire l'amour de façon épanouie.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. Plein nos armoires, dérision de nos dérisoires, car foule sentimentale, une soif d'idéal, attirée par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Sentimental, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il se dégage de ce corps.
C'était Profession sexologue, un reportage de Carole Bailly réalisé par Clémence Grosse. Merci à Virginie Clarenc, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à notre stagiaire Mina Morel.
On nous afflige.